aujourd'hui 12 mai 2016, j'ai 93 ans.
Aujourd'hui
même.
C'est vrai? Oui, oui. Oh, ben on ne le savait pas.
C'est pas vrai.
Tu nous l'as pas dit, oui, hein, tu oui. es cachotier.
Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait là?
Ah ben, on dit bon anniversaire.
On dit bon anniversaire, Roger.
Ou chanter la chanson, là.
Oui.
Bon, le temps est maussade.
Oui, on va... il en a assez plus comme ça. On va peut-être pas.
Oui, Roger, instituteur d'abord, oui, effectivement. Puis Roger, le randonneur quand même. Pendant 10 ans, j'ai édité une revue nationale qui s'appelait Chemin et qui avait pour but de faire de la randonnée pédestre un art de vivre, ce qui n'est pas une petite chose. Ensuite, l'Africain, parce qu'en tant qu'instituteur, j'ai exercé dans le Maghreb, puis ensuite au Cameroun, surtout au Cameroun, un peu au Sénégal. Et ensuite, le Cévenol, il faut dire, puisque je suis à Florac depuis une quarantaine d'années, où j'ai fait certaines choses. Mais en finale, à l'heure actuelle, ma vie se divise en deux parties. Le jardin, j'ai un jardin que je cultive avec passion et où j'essaie d'acclimater des plantes qui ne sont pas ordinaires pour la Lozère. Et bien sûr, je suis auto-éditeur, c'est-à-dire que de temps en temps, j'apparais un cahier, une revue, un album signé les éditions Givaudan-Cévennes. Le jardin, il est à côté. Comme les pluies ont été abondantes ces temps-ci, il est un peu en panne, la terre étant trop molle, mais comme nous sommes après les scènes de glace, il y en a eu un hier, je ne sais pas lequel. Il y en a un aujourd'hui, il y en a un demain. Mmh. La période des gels est passée, sans doute, espérons. Donc, c'est le moment de repiquer poireaux, betteraves, tomates, aubergines, etc. Je commence par planter les plantes qui résistent au froid, comme les pommes de terre, les oignons, les fèves, les petits pois. Et maintenant, j'en suis aux plantes qui ne résisteraient pas au gel. Il faut donc attendre que soient passées les scènes de glace.
Alors, quel est l'esprit de ce jardin? Est-ce que c'est un jardin à coup d'engrais et de pesticides?
Non, c'est un jardin biologique, bien sûr, il n'y a pas de chimie. Enfin, je le considère un peu comme une arche végétale, où j'accueille les ocas du Pérou, des pommes de terre de Bolivie, des acras d'Abyssinie, etc. Quoi. Des plantes venant d'ailleurs, que je me procure par correspondance, et que j'acclimate à notre climat. Dans le cas où elle serait très efficace, donnant une abondante récolte, je continue et puis j'essaie de promouvoir. Dans le cas où il n'y a pas grand-chose qui en sorte, j'arrête, bien sûr. Quand quelqu'un part en voyage, un peu loin, je lui demande de me rapporter des graines du Pérou ou de l'Inde. Mm-hmm. Ce qu'il fait avec plaisir, et puis moi je les sème et je vois les résultats.
Et il y a des bonnes surprises ou c'est...
C'est mitigé. Et puis je ne sais jamais si ces graines sont bonnes ou mauvaises, si c'est moi qui suis en faute parce que mes pratiques culturelles ne sont pas bonnes, si c'est la faute au climat, au terrain. Enfin, c'est comme ça. Je fais tout à la main. Je n'ai que deux outils de jardinier, la houe et le râteau. Donc je fais des sillons pas très profonds. Je mets du migou, c'est-à-dire du fumier de brebis. Je mélange et je repique ou je sème dans le sillon.
Est-ce que vous pratiquez, c'est ce qui est un petit peu, je ne sais pas si on peut parler de mode, mais la permaculture
des... Oui, effectivement, je me suis éduqué dans ce domaine, j'ai acheté des livres, je n'ai pas bien compris, il faut dire, Il me semble que je la pratique depuis assez longtemps, que j'en ai pratiqué sans le savoir, puisque j'utilise le compost, le fumier animal. En fait, j'ai des pratiques à l'heure actuelle qui devraient donner, je vais voir, qui cet été devraient donner. Mais c'est difficile à expliquer, il faut voir sur place. Quoi.
Parce qu'il est sûr, c'est qu'il n'y a aucun apport d'engrais ou de...
Ah non, 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 pas de chimie. Conserve les herbes folles que je rassemble, je conserve les déchets alimentaires, je composte, quoi.
Et ça vous occupe quotidiennement ?
Oh, presque, oui. Sauf ces jours-ci où la terre est trop molle et il faut attendre. Sinon, oui, ça m'occupe au moins 4 ou 5 heures par jour.
Ah, oui.
Surtout ces temps-ci, il a fallu préparer le terrain, désherber. Cette année, c'est une année à herbe. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes ont une vitalité extraordinaire. Il faut quand même s'en débarrasser. Et dans cet arge végétal dont je parle, je reçois des gens qui sont intéressés par le jardinage biologique. Ceux qui sont intéressés sont invités à venir visiter et visiteront sans peine. Je dois dire aussi que c'est un jardin partagé, c'est-à-dire que autrefois je le cultivais tout seul, mais aujourd'hui je n'ai plus l'âge de faire ça tout seul. Alors je l'ai. Des gens du village intéressés par le jardinage sont venus, je leur ai accordé des parcelles bénévolement, bien sûr. Et pour certains, c'est une découverte et c'est une mise à l'étrier. C'est-à-dire des gens qui passaient leur temps quelquefois au bistrot de la zone à Florac, trouvent dans le jardinage une façon de s'occuper intelligente et reprennent du poil de la bête et sont un peu sauvés, disons.
Que pensez-vous de l'adage qui dit que un homme est heureux s'il a des livres et un jardin ?
Oui, mais c'est tout à fait
ça. Je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est...
C'est un Rousseau, non ?
Ça pourrait être Jean-Jacques Rousseau, oui.
Ou Voltaire, peut-être aussi.
Ou Socrate,
oui.
Vous êtes le livre et le jardin.
Je suis le livre en tant qu'auto-éditeur, et puis je suis le jardin en tant que jardinier de cette arche végétale dont je parle. Effectivement, dans les journaux, à la radio ou à la télé, j'entends dire que le jardin est le commencement de la révolution.
Ah.
Nuit debout, la place de la République avait créé un jardin symbolique, sans doute, pour signifier qu'effectivement ça commence par là. C'est-à-dire que le jardinage permet d'être un peu autonome au point de vue alimentaire. Chaque jour, je mange mes salades, mes pommes de terre, mes oignons. Donc je suis autonome par rapport à l'industrie et au capitalisme.
Et peut-être que ça a une relation avec le temps qui passe dans le jardin, c'est...
Oui, parce qu'au jardin, d'abord c'est un exercice physique. Un exercice physique doux. Il n'y a pas de compétition. On dispose de son temps comme on veut, il n'y a pas de patron. On fait quand même un effort à piocher, à soulever des poids, etc. Donc c'est un exercice qui permet la santé, autant physique que psychologique. Et puis dans le jardin, on vit avec les saisons. En hiver, on regarde ce qui pousse. En été, on s'active. On écoute les oiseaux. En cette saison, les oiseaux sont très actifs. Le matin, ils sont très nombreux à chanter, le soir aussi. D'ailleurs, j'ai transformé mon jardin en refuge à oiseaux, de sorte qu'ils sont assez nombreux. Dès que j'ai défriché une parcelle, je vois rapiquer des merles et des rouges-gorges qui viennent picorer les vermisseaux qu'ils peuvent trouver là. Ma foi, c'est la vie.
Ce que vient de dire Roger me fait penser qu'on pourrait faire un lien entre le jardin et la randonnée. Parce que quand tu dis qu'au jardin, tu t'occupes de la saison, des saisons, que c'est un exercice doux, on pourrait dire un peu la même chose de la randonnée. Il faut fournir un effort, mais ce n'est pas nécessairement un effort violent. Il faut quand même un effort régulier. Ce qui nous permettrait de faire le lien avec ce que tu es venu faire ici aussi il y a plus de 40 ans, c'est-à-dire développer cet aspect de la vie à travers la randonnée.
Oui.
Donc ça a quand même occupé quelques années aussi.
Oui, oui.
Même si tu en fais moins maintenant.
C'est-à-dire que après 68, les murs cévenols sont mis à crier. Touristes au défort, ça veut dire touristes dehors, les Cévennes ne sont pas à vendre. C'était des étudiants de Montpellier qui, n'ayant pas participé aux barricades parisiennes, se rattrapaient un peu l'été en critiquant le tourisme tel il était pratiqué à cette époque. Alors, nous sommes réunis, quelques amis intéressés par le sort économique de ce pays, pour savoir s'il fallait nous aussi badigeonner les murs avec des slogans révolutionnaires ou bien faire autre chose. Alors on en a conclu, après plusieurs heures de discussion, on a conclu que le tourisme, c'était un fait social irréversible, que c'était tout à fait normal que l'ouvrier, dans ses congés payés, fasse du tourisme. Mais on refusait le tourisme au profit de quelques-uns. Par exemple, l'Avenarmand est un point touristique très important, les visiteurs sont très nombreux chaque année, mais ce tourisme ne rapporte pas au pays. Les impôts sont payés à Paris, parce que c'est à Paris que se tient le bureau. Mérues, puisque la Vénama se situe dans la commune du Mérues, Mérues reçoit une petite retombée, mais pas très importante. Le personnel vient souvent de Paris, les autochtones ne sont pas concernés par ça, quoi. Ce tourisme qui ne rapporte pas au pays, en emploi ou en capitaux, n'était pas le nôtre. Alors, lequel était le nôtre ? On a pensé à organiser des séjours de la semaine, à thème. Séjour initiation à la géologie, parce qu'en Cévennes, la géologie est très, très variée et très riche. Séjour initiation à la préhistoire, parce que nous avons beaucoup de préhistoire, des menhirs, des dolmens, des grottes, etc. Séjour au pays des camisards, bien sûr, ça s'imposait.
On rejoint l'histoire.
Oui. Séjour en Cévennes tout court, quoi, connaissance des Cévennes, connaissance du Causse, connaissance du Mont-Lozère, etc. Et pendant 10 ans, chaque semaine, nous avons reçu un groupe venant de Paris ou de Strasbourg ou de Provence, etc., quoi, venu en Cévennes. Alors nous avons inventé le métier d'accompagnateur. On a inventé le terme accompagnateur parce qu'on ne voulait pas être des guides comme au club alpin, ni des commissaires comme au touring club. On voulait être des gens accompagnants, des gens. Des accompagnants parce qu'ils connaissent un peu mieux le pays que celui qui vient de Bretagne, mais pas plus, quoi. Donc, chaque semaine, un accompagnateur accompagnant un groupe de 12 ou 15 personnes partait d'un point fixe, par exemple l'auberge de Finielle sur le Mont-Lozère, ou une auberge dans les Cévennes, ou un centre d'accueil sur le Cosmé-Jean. Partait de ce point fixe et faisait des randonnées de la journée, à pied bien sûr, autour de ce point fixe. C'est ce qu'on appelle la randonnée à Marguerite. Et pendant toute la journée, on expliquait le thème, parce que dans notre groupe, il y avait beaucoup d'étudiants en géologie. Donc c'était eux qui exploitaient le thème connaissance de la géologie, il y avait quelques préhistoriens. Et ensuite, on en a eu assez de faire cette formule qui ne correspondait plus beaucoup à l'attente des gens, parce que les gens voulaient randonner sur un itinéraire, une semaine, mais changer de point de chute chaque jour, aller d'un gîte à l'autre. Alors on a innové la formule itinéraire de la semaine, connaissance de l'Aubrac, alors en élargissant notre secteur, Aubrac, de Perjuré à la mer, connaissance de la margeride, etc. Connaissance de... Et puis on en a eu assez de faire toujours à peu près pareil. Alors on a inventé une deuxième association qui s'appelait Chemin, au pluriel, succédant à la première qui s'appelait Drail. Et un disque Drail avait pour point de, pour territoire les Cévennes parcourues par les drailles, Chemin avait pour territoire l'Europe. La draille, c'est le chemin qu'empruntaient parce que les moutons transhumants, lorsqu'ils allaient au printemps des plaines du Languedoc aux montagnes lozériennes, les Goualles, Mont-Lozère, plus haut la Margerie des Laubrac, et puis ils passaient dans ces montagnes, ils passaient l'été, c'était l'estive, et puis au premier froid de l'hiver, ils reprenaient la draille, le chemin, vers le midi, où ils passaient l'hiver. Ce sont des chemins sauvages, suivant les crêtes, et allant de col en col. Des chemins qui ont été créés non pas par l'homme, mais par les animaux sauvages avant l'arrivée de l'homme. C'est-à-dire quand les premiers hommes préhistoriques sont arrivés, ils avaient déjà domestiqué les moutons, mais ces moutons à demi-sauvages encore, lorsqu'ils voyaient que les ruisseaux ne coulaient plus d'eau, que la canicule arrivait, que l'herbe séchait, ils prenaient des chemins très anciens que leurs ancêtres avaient créés, les drailles. Et les drailles passent sur les crêtes, parce qu'il n'était pas possible à cette époque de passer par le fond des vallées, ni par les pentes qui étaient encombrées d'arbres, de broussailles, etc.
Si on résume au départ, c'est vous n'êtes pas des guides, des accompagnateurs. Ensuite, ça change d'appellation.
Non. Et ensuite, chose bizarre, le mot accompagnateur est rentré dans le dictionnaire officiel. C'est-à-dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a créé un examen national pour former de nouveaux fonctionnaires susceptibles d'accompagner des touristes pédestres, a pris le terme d'accompagnateur et s'est devenu accompagnateur de moyenne montagne. C'est un diplôme national qui vous permet d'accompagner et à l'état rémunéré pour ça des groupes de randonneurs.
Et ça, c'est resté. L'appellation et la fonction est restée.
C'est-à-dire qu'ensuite, on a pris de l'âge, on s'est un peu éloigné. C'est-à-dire que dès la première séance, la première assemblée générale, nous avons convenu ensemble que lorsque les randonneurs seraient capables de randonner tout seuls, sans accompagnateur, à ce moment-là, nous aurions gagné la partie. Et nous pourrions dissoudre l'association, nous disperser, faire autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. La Fédération nationale des sentiers de grande randonnée a multiplié les chemins de grande randonnée. Des gîtes pédestres ont été créés. Des topo-guides permettant la randonnée ont été édités. Et à l'heure actuelle, n'importe qui, un peu dégourdi, peut randonner tout seul, sans être suivi par l'accompagnateur.
Mais parce que les connaissances sont là, les documents sont là.
C'est ça, oui.
Les fameux topo-guides ont été...
Que nous pourrions dire, avec un peu de vanité, c'est qu'on a été au départ...
Voilà, c'est important. C'est pas être vaniteux, c'est juste dire comment se sont passées les choses.
Et ensuite, le chemin s'est étendu dans toute la France. On a fait des chemins en Bretagne, en Provence.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez quitté la Lozère, les Cévennes et,
c'est ça,
et
oui.
La Margerie.
On est même allé en Espagne pour chercher Don Quichotte. On est allé en Italie autour de François d'Assise. On est allé en Suisse autour de Ramu, qui est le Giono des Suisses. Et puis ensuite, comme toute chose humaine, les gens abandonnent pour des raisons personnelles, ils se marient, ils ont des enfants,
vous,
etc.
Vous étiez combien dans cette aventure au départ, dans cette équipe?
Les réunions avaient souvent lieu ici, on était bien 20 à 30.
Ah oui, oui. Des gens qui habitaient ici dans
qui habitaient dans ici, le coin. Oui, oui. Et certains étaient par exemple maçons.
Oui.
En tant que maçons, ils maçonnaient toute l'année, mais ça leur faisait plaisir de dire pendant une semaine... Je vais randonner avec des gens que je ne connais pas, mais que je vais connaître. Ça va me couper de la routine quotidienne. Je vais être un peu rémunéré par ça, parce que l'association était autogérée. C'est-à-dire qu'on demandait une certaine somme aux usagers. Je n'ose pas dire aux clients, comme disaient les autres.
Une participation.
Aux amis, une participation, oui. Et cette participation permettait de... rémunérer l'accompagnateur. Mmh. Évidemment, on ne gagnait pas des millions. Hein, c'était mieux que rien. Quoi.
Ça dédommageait, au moins.
Un peu plus que ça, quand même. Mmh. Et puis c'est nous, dans l'Assemblée générale, qui décidions de la rémunération.
Oui, donc, on est loin du guide touristique classique.
Roger a employé le terme d'autogestion qui était très, très en vogue après 68.
Parce que
vous y étiez là-dedans, dans cette histoire.
Ça collait avec l'époque, avec le...
Ça colle toujours, parce que quand même, les coopératives ouvrières sont généralement autogérées. Mmh. Et puis, vous pouvez autogérer aujourd'hui...
Disons que c'était nouveau dans le...
Dans ce domaine-là, c'était assez nouveau, je pense. Vous étiez un peu des précurseurs.
Dans ce domaine-là, oui. Puis on était précurseurs par le fait qu'on donnait une culture aux gens qui venaient, quoi.
Et si j'employais à ton égard le terme d'éducation populaire, qu'est-ce que tu me répondrais?
Oui.
Parce que tu t'y retrouves dans cette appellation.
On peut dire cette éducation. Oui, je pense que l'éducation populaire, qu'est-ce que c'est? C'est, on éduque les gens en leur apportant des connaissances, mais ces connaissances peuvent être apportées par la lecture, par le spectacle, mais je pense que la randonnée est encore la méthode, le moyen le plus profond, parce que cette culture s'acquiert à la force des mollets, malgré le froid, malgré le vent, malgré la pluie. On n'est pas prêt d'oublier.
Ouais. Et alors, si je peux me permettre de remonter encore le temps, là, de nouveau, il y a une filiation avec Freinet, avec l'éducation Freinet, parce que une façon de rendre autonomes les gens... c'était un peu, j'imagine, son...
Oui. Enfin, assez loin, parce que Freinet, c'est un paysan, un fils de paysan qui était resté. Et vous savez, les paysans ne marchent pas. Ils marchent pour aller à la chasse, ils marchent pour aller chercher les champignons, ils marchent pour aller chercher leurs vaches, mais marcher, pour voir le paysage qu'ils voient tous les jours, ça les... Et Freinet n'était pas tellement... pour la marche. Moi, qui étais instituteur dans son école, j'avais un mal de chien à lui faire admettre que les élèves devaient de temps en temps sortir de l'école pour faire connaissance avec la Corse.
Oui. Je ne voulais pas nécessairement parler que de la marche et de la randonnée par rapport à Freinet. Je voulais dire par là une démarche qui tend à essayer à ce que les gens, quand ils passent chez vous, dans ces méthodes-là, ou qui randonnent, ou qui font du jardin... ils apprennent un petit peu à devenir autonomes. Oui. Et voilà, c'était juste ça. Je voulais pas du tout...
Notre association était autogérée, comme je l'ai déjà dit, mais les groupes qui passaient une semaine ensemble étaient également autogérés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un préfet. On ne disait pas, voilà, ça va vous coûter tant. On disait, voilà, ce soir, on arrive dans un gîte. C'est 15 euros la nuit. Ou bien on couche dehors la belle étoile. Bon, il y avait discussion, pour ou contre, finalement, la majorité l'emportait. Finalement, on allait au restaurant.
Quand tu te penches sur tu fais le bilan de tout ce que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu vois justement cette ligne directrice là qui t'a guidé, qui t'a fait faire des choses un peu différentes, mais quand même un peu qui globalement ont un sens entre elles? Est-ce que tu le ressens, ça, toi, personnellement?
Pas tellement, non.
Non, toi, tu penses que t'as été un peu papillonné de droite et de gauche, mais en fait, tu as...
Au départ, je devais avoir... quelques possibilités en ce sens, mais non. Mais de toute façon, même aujourd'hui, 12 mai 2016, j'ai 93 ans.
quoi avoir 93 ans ?
J'en sais rien. C'est quand même constater que la caisse se déglingue de plus en plus quand même. Il y a des dents qui tombent, on sent quand même que la vieillesse arrive, quoi. Mais enfin, on fait avec, et si possible, on fait malgré. Mais je pense à mon auto-édition comme si je devais éditer pendant 20 ans, alors que certainement il va falloir arrêter sous peu. Mon jardin aussi, j'imagine des plans de culture comme si ça devait durer 20 ans. Hein. Bon, mais il vaut mieux être dans ces conditions, me semble-t-il, que dans le pessimisme général. Et il suo infernal dolore
Est-ce que je peux vous demander si à 93 ans, on rêve
La nuit ?
Non.
Non, non, je suis très réaliste. Mon jardin, par exemple, je le mène de façon à ce qu'il soit réalisé. Les tomates vont pousser. Mes éditions, je les gère, et surtout je gère la vente, parce que le problème, c'est pas d'éditer. Patrick doit le savoir, c'est de vendre. Bon, je gère comme ça, quoi.
Donc le temps, la durée n'a pas de prise.
Malgré l'âge, oui.
Malgré l'âge.
Malgré la caisse qui se déglingue.
Voilà. Alors c'est un épiphénomène, l'âge, alors c'est une blague, non, c'est quoi ?
C'est pas une blague, non.
Une mauvaise blague.
On sent que ça, qu'il y a des manquements de temps en temps, que ça répond pas comme on voudrait, mais... On fait avec, quoi. On fait avec en utilisant une alimentation équilibrée et normale, en dormant suffisamment, en évitant les polluants, en faisant le nécessaire, quoi.
Oui, oui.
Pas durer pour durer, durer pour faire quelque chose.
Est-ce que dans toutes ces aventures que tu as menées, alors instituteur en Afrique, randonneur dans les Cévennes, éditeur, conteur, ça on n'en
ah oui,
a pas souvent parlé, mais tu as compté beaucoup ici, enfin dans tous les sens du mot, compter C-O-N et compter C-O-M. Donc est-ce qu'il y a eu des le jardin, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont plus... où tu t'es senti mieux, où tu t'es senti complètement dans ton univers, ou alors que de toute façon tu te sentais bien dans chaque,
oui,
dans chaque sont, période. Oui,
elles sont venues à leur temps.
Oui.
Je les ai prises comme elles sont venues, je les ai assumées,
oui.
J'ai fait le nécessaire pour que ça réussisse.
Tu dis je les ai prises comme elles sont venues, mais tu as quand même décidé d'être instituteur,
oui, oui.
Selon les méthodes Freinet, d'aller en Afrique. De revenir en France et d'ailleurs, pourquoi en Cévennes t'es revenu qu'est-ce qui faisait que tu venais ici, à Florac, par exemple? Si j'ai bien compris, t'es arrivé vers 68,
c'est
Florac.
Ma femme est... Moi, je suis de l'Aveyron, mais oui, ma femme est de Lozère,
hein,
à côté de Marvejols. Et ensuite, j'ai fait l'école normale d'instituteur à Mende. Alors, je connaissais la Lozère pour l'avoir pratiquée pendant les 3 ans d'école normale. Je savais que c'était un département peu peuplé, mais riche en paysages, en population, en possibilités diverses.
Oui.
Et ensuite, j'ai fait connaissance d'une personne extraordinaire. Il s'appelait Paul Arroy. Il était instituteur, lui aussi, en Champagne, dans un petit village à côté de Troyes. Il était, à cette époque, les instituteurs étaient souvent les animateurs du village. Ils étaient secrétaires de mairie, ils étaient présidents de l'équipe de football, ils organisaient la fête votive, etc. Et tout en faisant cela, il s'est aperçu que le monde rural, d'abord, faiblissait en population, c'était l'exode rural, et puis que les animations... Elle n'était plus assumée, le monde rural se mettait en sommeil. Et alors il est allé trouvé le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui s'appelait M. Edgar Pisani, connu dans le monde politique, pour lui présenter une idée qu'il avait eue en lui disant, voilà, il faudrait que, puisque vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports, que vous créez un corps d'animateurs spécialisé dans le monde rural. Alors, Pisani lui a dit, écoutez, c'est bien gentil, mais dans le monde rural, il y a des gens qui décident, ce sont les présidents des chambres d'agriculture. À cette époque, effectivement, c'était comme ça. Il faut que vous deveniez, vous aussi, spécialiste de l'agriculture, sinon vous n'aurez aucun effet dans le monde rural. Alors, pendant deux ou trois ans, il est allé à l'école, il a lu des livres, etc., il s'est formé pour devenir ingénieur agronome. Et à le diplôme en poche, il est retourné voir Edgar Pisani. Et Edgar Pisani a créé, effectivement, sous la directive de ses instituteurs, Paul Arvoy, il a créé un corps de fonctionnaires spéciaux, les animateurs socio-culturels à milieu agricole. Alors quand j'ai décidé avec Marie, ma femme, mon épouse, de revenir en France, nous étions alors à Yaoundé, quelqu'un m'a dit, mais tu devrais aller voir un gars qui s'appelle Paul Arvoy. Ce que j'ai fait, il était au ministère de l'Agriculture à Paris, rue Varennes, et de suite on a fraternisé. Quand je lui ai dit que je voulais être animateur, dans ce nouveau corps qu'il venait de fonder, il m'a dit, où veux-tu aller? Où veux-tu être nommé? Je lui ai dit, si possible, en Lozère. Alors il m'a dit, ça ne va pas être difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de postulants.
Personne ne veut.
Alors, il m'a dit, justement, c'est intéressant parce qu'en Lozère, et particulièrement dans les Cévennes, ils ont l'intention, dans l'avenir, de créer un parc qui sera parc national. Et alors, une mission va être créée pour la création de ce parc. Je te nomme animateur participant à cette mission. Mmh. Et pendant 2-3 ans, ma femme et moi, nous avons fait partie de cette mission qui avait pour but de cogiter ce qui allait être le parc national des Cévennes, c'est-à-dire son territoire, ses frontières, la vie des autochtones vivant dans ce territoire.
Un territoire habité.
Puisque le parc est habité, oui. Et puis finalement, le processus politique a eu lieu et le parc a été créé. Je suis resté comme animateur au Parc national des Cévennes. Et puis finalement, j'ai pris ma retraite à 55 ans, retraite d'un instituteur.
D'accord.
Et je suis à la retraite depuis.
Donc la carrière d'instituteur s'est terminée par cette fonction d'animateur au Parc national des Cévennes.
Et c'est là que j'ai eu l'idée de ces randonnées dont on parlait, parce que je me suis aperçu évidemment que la Lozère, c'était la terre d'élection de la randonnée pédestre. Les paysages sont très variés, voisins l'un à l'autre, on peut les parcourir assez facilement. Et je me suis aperçu que c'est un moyen de culture exceptionnel et qu'il fallait aller dans ce sens.
Si vous êtes rentré en France, alors je remonte encore le temps, c'est parce qu'il y avait eu les indépendances en Afrique ou c'était pas directement lié à ça?
Non, c'était pas lié, non. Le Cameroun, où nous étions, a reçu son indépendance le 1er janvier 1960. Mmh. Là, j'étais directeur d'une école dont on parle encore, l'école Pitoa, qui est connu pour ses peintures d'enfants. Ouais. On avait trois enfants. Il fallait leur assurer une scolarité normale. Mais quand on est instituteur, on ne s'occupe pas beaucoup de ses enfants. On est pris par le boulot. Les enfants, ils apprennent à lire tout seuls. Et quelquefois, c'est dommageable.
Ses propres enfants.
Ses propres enfants, oui.
On se consacre aux enfants des autres.
C'est ça, les élèves. Donc, le plus sage pour nous, c'était de rentrer en France.
Ça a duré combien de temps, la période africaine, en tout ?
On a fait 4 ans en Algérie,
ouais.
En faisant 2 oasis.
C'était pendant la guerre d'Algérie ?
Non, c'était avant la guerre d'Algérie, oui. On a vu la guerre qui se préparait.
D'accord.
On pouvait assurer, on pouvait affirmer que ça allait avoir lieu.
Oui.
Parce qu'on était dans le bled, donc on était en contact avec ce qu'on appelait les indigènes. On voyait bien que ça allait péter, quoi.
D'accord.
Et ensuite, après l'Algérie, on est allé au Cameroun. On a fait plusieurs postes dans le sud et dans le nord, surtout dans le nord. Puis on est allé au Sénégal 1 an, puis en banlieue parisienne 1 an, et retour à Lozère.
On essaie de jeter un regard sur tout votre parcours. Comment se prenaient les décisions ? Est-ce qu'il y avait un calcul, une...
C'est-à-dire que tout jeune, j'avais le feu au cul, comme on dit.
Alors, voilà. Parce que depuis tout à l'heure, moi, je cherche le fil rouge. Alors, on vient peut-être de le trouver.
Alors, donc, après l'école normale, je...
Roger Lagave a le feu au cul.
Non, Hervé.
Maintenant, le feu s'éteint.
On risquerait de s'y brûler.
Il y a encore des braises,
on pourrait encore...
Quelques braises rougeoyantes. Il faut donner un coup de bouffadou, là.
le bouffadou étant le tuyau à travers lequel on souffle pour
réanimer la
flamme. Tu dis ça pour les lecteurs qui n'habitent pas les Cévennes.
Exactement. Les autres.
La Lozère.
Exactement.
C'est-à-dire qu'après les 3 ans d'école normale... Et le baccalauréat, j'aurais pu être nommé dans un poste en Lozère, quoi, dans une école de village, etc., et puis faire ma carrière en Lozère, en allant d'un poste à l'autre. Mais comme j'avais le feu derrière, justement, j'ai demandé ce qui, à cette époque-là, était les colonies. Et alors, j'avais demandé les colonies les plus éloignées, l'Océanie, la Patagonie, etc. Et on m'a envoyé à l'Algérie. Enfin, j'ai dit... C'est pas si loin que ça, mais c'est un commencement, quoi. Puis j'étais très motivé par le Sahara. J'avais lu un tas de trucs sur le Sahara, puis ces grandes étendues de sable désertique, ça me disait quelque chose. Alors j'ai dit, l'Algérie, c'est pas loin du Sahara. Effectivement, après la Kabylie, qui est au nord, on a fait deux oasis, des caravanes à chameaux, etc., quoi. On a une autre part de désert.
Et ça a correspondu à tes rêves, cette découverte du Sahara ?
À peu près, mais à condition de ne pas y rester trop longtemps, quand même, parce qu'on s'épuise. Hein.
Ouais.
Il n'y a rien, bien sûr, mais finalement, on n'a pas beaucoup de on fait pas beaucoup de découvertes très importantes. Les contacts avec la population locale sont quand même assez limités, bien qu'on les recherche. On est resté 4 ans au Sahara, mais ça nous a suffi, quoi.
Ouais.
Après, Après, on est allé au Cameroun.
Et tout ça avec une vie de famille, des enfants, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, votre énergie, elle vient du fait que vous cherchez toujours à regarder ce qu'il y a derrière le décor ?
Après le tournant du chemin. Oui, c'est-à-dire que...
Est-ce que vous auriez pu vivre dans une plaine ?
Oh, pourquoi pas, si la plaine est intéressante. Oui, je n'ai aucun préjugé contre
les
plaines.
Non, c'est parce que je pense au relief, et donc on a envie de voir ce qu'il y a derrière le relief, toujours.
Oui, mais c'est une manie du randonneur pédestre. Il est sur un chemin, il y a un tournant, il ne sait pas ce qu'il y a derrière le tournant, il veut y aller voir.
Vous n'étiez pas fait pour vivre sur une autoroute ?
Non, peut-être pas, oui. Ni en ville, d'ailleurs.
Et là, voilà, la partie désert, c'est parce que tu parles du Sahara. Ici, on ne peut pas dire qu'il y ait 100 habitants au kilomètre carré, loin de là. Donc, il y a quand même un côté, puis le désert, aux protestants, ça parle.
Donc y a un lien avec le fait qu'il y ait des lieux pas trop habités. C'est quelque chose d'important pour toi. Par exemple, comme disait Bernard à l'instant, est-ce que tu aurais pu vivre dans la Beauce ou dans une région beaucoup plus peuplée, tu vois, de campagne, mais plus peuplée que...
Si c'est la nature.
Ouais.
Il me serait difficile, par exemple, de vivre en Languedoc ou dans l'océan des vignes, ouais. quand il n'y a que des vignes, que
ça,
des vignes.
Que tu connais bien.
Que je connais bien, puisque
j'ai vécu. Tu étais originaire de là-bas.
Oui.
C'est ça.
Donc, crapahuter dans les vignes, c'est pas très intéressant.
Exit les vignes et la ville, pourquoi vous n'auriez pas pu...
Parce que je suis un rural plutôt qu'un urbain, certainement. Un villageois plutôt qu'un citadin. C'est la nature, ça.
Vous lui reprochez quoi à la ville par rapport à
l'humain? Je ne lui reproche rien. Mais entre la ville et la campagne, il faut choisir. Et j'ai choisi la campagne.
En même temps, tu es installé pas très loin de Florac, qui est une petite bourgade quand même assez dynamique. Donc, tu t'es pas totalement coupé du monde non plus.
Non. Voilà. Le monde rural, c'est quand même pas un désert. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que les gens devraient savoir, c'est que dans le monde rural, on peut toujours vivre une aventure. L'aventure, par exemple, de l'auto-édition, l'aventure d'un jardin, l'aventure d'une famille, l'aventure d'un petit artisanat, pas la grande aventure, la découverte du pôle Nord, mais chacun peut vivre une certaine aventure, c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est ce qui donne du sel à la vie. Alors que en ville, quand on voit les salariés qui sont dans une banque toute la journée, je ne sais pas s'ils vivent une aventure exaltante.
C'est limité,
effectivement. À propos de la densité de population qu'évoquait Patrick, moi j'ai entendu à la radio locale ici de Florac,
Radio Barthas,
un monsieur qui nous parlait qui nous disait un conte à la radio. Ce monsieur, c'était vous, et ce conte, c'était « Je suis l'habitant au kilomètre carré ».
Oui, c'est peut-être pas un conte, mais en fait, ça s'y apparente. Effectivement, à Lozère, si on fait la statistique, on n'est pas nombreux par kilomètre carré, quoi. On est nombreux à Mende, à Langogne, à Saint-Chély-d'Apcher, mais sur le Cosmé-Jean, dans les Gois, dans l'Aubrac, à la Salle-Prunay, il y a 150 habitants, dispersés sur un territoire assez grand.
Nous sommes au village de la Salle-Prunay.
Oui.
Je dis ça pour les auditeurs.
Près de Florac. Un village qui s'est rattaché dernièrement à Florac.
À la capitale.
Et donc cet habitant au kilomètre carré, il fonctionne comment?
Tout le monde est l'habitant au kilomètre carré. Si vous habitez en masse, tout seul, dans un grand espace, vous êtes bien un habitant au kilomètre carré. Peut-être même moins. Mais ça ne vous empêche pas de vivre. Peut-être même que ça vous permet de vivre mieux.
Condition de bien s'entendre avec son voisin.
Son voisin qui est loin. En arrivant ici, déjà au Cameroun, je pensais à revenir et j'avais une idée dans la tête, c'est créer un chemin suivant l'itinéraire de Stevenson. Et quand je suis arrivé, quand j'étais installé, à pied, en utilisant le livre de Stevenson, Voyage avec un âne à travers les Cévennes, j'ai recherché l'itinéraire, parce que beaucoup de tronçons avaient été goudronnés, ou avaient disparu dans la nature. Et puis j'ai organisé, dans le cadre de trail et puis de chemin, j'ai organisé des randonnées, voyager avec Stevenson. C'est ainsi que petit à petit, l'itinéraire Stevenson a pris corps, une association s'est créée à ce sujet. des randonneurs sont venus, on en a parlé à la radio, à la télé, j'ai édité un album de bande dessinée. Petit à petit, le chemin Stevenson est devenu ce qu'il est aujourd'hui, quoi.
C'est un gros succès.
Assez connu.
C'est un très grand succès.
Moins que celui de Compostelle. Quand j'étais adolescent, comme tout le monde, je m'intéressais aux chanteurs et aux chansons, d'autant plus que ma mère, qui n'était pas cantatrice professionnelle, chantait beaucoup à la maison, pas plus. À cette époque-là, il y avait comme chanteur, il y avait Fernandel. Alors Fernandel, elle avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Il y en avait d'autres qui chantaient « Elle me fait poète-poète, elle me fait poète-poète », etc. C'était des chansons... Au point de vue littéraire et musique, c'était pas formidable. Et puis beaucoup faisaient la glorification des souteneurs. Et puis tout à coup, dans l'obscurité de la chanson, un gars s'est mis à chanter. Il chantait en rythme, selon le jazz venu de l'Amérique. Il chantait des textes en rapport à la nature, avec la vie sous les étoiles, etc. Et ce chanteur nouveau s'appelait Charles Trenet. Et effectivement, je me rappelle, dans la classe que je fréquentais, les élèves, vous aviez
quel âge, l'adolescence, 15 ans, 16 ans?
Oui, c'est ça. D'accord. Les élèves se sont divisés en deux, ceux qui étaient pour Tino Rossi et ceux qui étaient pour Charles Trenet.
Voilà.
Alors, on se tapait pas dessus quand même sur ce sujet, mais... On se regardait avec un certain œil.
Entre Marinella Ticci Catarinella Ticci.
Et puis Corse, Ville d'amour, etc. C'était des chansons qui avaient du succès, hein, étaient très demandées à la radio. Oui. Il y avait aussi Rina Ketty. Mais en fait, c'était des chansons sirupeuses qui endormaient plutôt qu'autre chose. Et puis tout à coup, Charles Trenet nous réveillait. Et alors, on était avec lui, quoi. Première chanson qu'on a entendue sur le train, c'est « Je chante ». Je chante la nuit et le jour, je chante pour toujours. Ouais. Et puis ensuite, beaucoup de chansons amenées à la randonnée. « Prends la route enchantée, ouais, »,« Bas sous les étoiles », etc.
Ouais. Le fou chantant, on l'appelait.
Oui. Il chantait l'amour aussi, un bon amour, quoi. L'amour...
C'était pas vulgaire.
Jeune et frais. C'est pas vulgaire, non. Et puis ensuite, personnellement, j'étais assez marqué par le côté... Loisirs amenés par le Front Populaire. Le Front Populaire, c'était la semaine de 40 heures, et c'était les congés payés, pour la première fois, et puis c'était les auberges de jeunesse. Pour la première fois, des ouvriers pouvaient quitter leur maison et la ville pour aller voir la mer. Ils étaient payés malgré tout. Et avec ma femme, on a acheté un tandem et on est allé à Naples.
Ah oui, ouais, bah quand même.
Ah ouais, t'as fait une virée à Naples en tandem.
Oui, oui. En allant de Marseille, Gênes, Florence, Rome, puis Naples.
Ah oui.
Et puis ensuite, les auberges de jeunesse, c'était une sorte de mystique. Il y avait une véritable mystique dans les auberges de jeunesse. C'était des jeunes, d'abord, qui venaient là pour la nature, pour le contact avec d'autres qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils allaient apprendre à connaître. Puis il y avait le père aubergiste, qui était quelquefois une mère aubergiste, qui donnait un certain allant à tout ça. Oui, oui. C'était à base d'activités naturelles, la marche ou la pêche. Ou...
Il y avait déjà en germe des tas de choses que tu as faites par la suite, la randonnée.
Il faut savoir que à un certain moment, le président des auberges de jeunesse, laïque, parce qu'il y avait deux sortes de jeunesse, deux sortes d'auberges, des auberges d'obédience un peu chrétienne, catholique, et puis les auberges laïques, avec Jean Zé,
Léo Lagrange.
Léo Lagrange, oui. Bref, il faut savoir que pendant un certain temps, c'est Jean Giono, qui, le chantre de la nature, des vraies richesses, du milieu rural, qui a été président des auberges de jeunesse.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ?
On n'a jamais tout dit. On n'a jamais tout dit. Oui. Heureusement.
Oui, on va sortir, on va boire un coup.
Ah oui. Voilà.
Aujourd'hui, 12 mai. 2016, j'ai 93 ans.